Il est l'heure de notre rendez-vous sur les droits humains avec Régis Coulanges d'Amnesty International, responsable de formation en région PACA. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Aujourd'hui, cette émission est consacrée essentiellement, pratiquement, à notre campagne Manifestez-vous, une campagne pour la liberté de manifester, et associée à notre campagne mondiale des 10 jours pour signer, qui a commencé le 2 décembre dernier et qui se terminera le 10 décembre par un stand à la médiathèque de Digne où vous pourrez venir signer nos pétitions pour 10 personnes ou groupes de personnes qui ont été inquiétées, voire tuées en marge de manifestations, pendant des manifestations, alors qu'ils exprimaient pacifiquement leur désir. Voilà, donc on a cette campagne Manifestez-vous. Tout au long de l'histoire, les manifestations ont permis à des individus et des groupes d'exprimer leurs désaccords, leurs opinions et leurs idées, d'exposer les injustices et les abus, et de demander des comptes aux autorités. Nous avons toutes et tous en tête des manifestations célèbres qui ont marqué l'histoire et fait bouger les lignes. La marche du sel de 1930 pour l'indépendance de l'Inde, les mouvements contre l'apartheid de 1950 en Afrique du Sud, les soulèvements du printemps arabe à partir de 2010, les manifestations en France pour le mariage pour tous entre 2012 et 2013, les mouvements contre les violences policières en 2017 au Nigeria, les marches en Argentine pour le droit à l'avortement en 2019, la révolte populaire au Chili contre les inégalités sociales en 2019, les différentes victoires obtenues, si ce n'est arrachées, par les mouvements sociaux au terme de longues vagues de mobilisation et de soulèvements populaires massifs, illustrent le formidable pouvoir d'impact et la force destructive que peuvent avoir les manifestations. Plutôt que de respecter, garantir et protéger le droit de manifester, une grande partie des États, craignant précisément cette force et le risque de remise en cause de leur statu quo, s'emploient à le contrôler, à le limiter, si ce n'est l'interdire complètement. Depuis des décennies, nous soutenons les mouvements de contestation et nous dénonçons la répression violente et sans pitié avec laquelle leur répondent de trop nombreux États. Les mouvements de contestation se sont largement multipliés ces dernières années et les logiques répressives se sont gravement intensifiées. Partout dans le monde, les États durcissent leur approche et s'attaquent de plus en plus violemment au droit de manifester pour empêcher ou écraser le mouvement de contestation et museler les opposants. On le voit en Russie, on le voit en Iran, on le voit dans beaucoup d'endroits. L'espace civique est de plus en plus restreint. Cette répression aggravée se manifeste au travers de deux types de restrictions, l'usage excessif et illégal de la force et l'instrumentalisation de la loi pour criminaliser les manifestants. La technologie, notamment la surveillance de masse, que permettent les logiciels de reconnaissance faciale, est également un outil utilisé par les autorités pour contrôler et limiter les manifestations. Cette année, les 10 jours pour signer concernent 10 personnes ou 10 cas de personnes qui ont manifesté et qui, pour cela, alors qu'elles manifestaient de façon pacifique, ont été inquiétées, arrêtées, torturées, voire tuées. On a commencé Amnesty International France à inaugurer cette semaine de signatures et d'action en faveur de ces personnes à Marseille. Parce que dans les 10 cas de la campagne mondiale, il y a un cas en France. C'est la première fois qu'il y a un cas en France qui concerne l'action mondiale. C'est une jeune femme, je vais vous en parler un peu plus loin, qui a une vieille femme de 80 ans qui a été tuée à Marseille en marge d'une manifestation. Voilà, donc on va écouter maintenant le spot radio qui annonce les 10 jours pour signer.
Alors il y a d'abord cet inconnu à l'histoire tragique qui débarque dans votre fil d'actualité, et ça vous touche bien sûr. Et là, faut juste signer une pétition. Et d'un coup, vous vous sentez ridicule à vouloir sauver le monde en un clic, là, comme si entre une vidéo de bébé phoque et un coucher de soleil à Bali, vous alliez vraiment aider cet homme derrière les barreaux avec une petite signature. Et pourtant, vos milliers de petites signatures ont déjà libéré des centaines de personnes, comme Germain Rukuki, emprisonné pour avoir milité contre la torture au Burundi. Signez sur amnesty.fr pour continuer de rendre justice à toutes celles et ceux dont les droits sont bafoués.
Voilà. Vous pouvez donc signer sur amnesty.fr ou, si vous préférez signer des pétitions papier, venir le 10 décembre à la médiathèque de 10h à 17h, médiathèque de Digne-les-Bains. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant les cas de notre campagne. Alors, le premier cas, ce sont trois jeunes femmes au Zimbabwe, Cecilia, Johanna et Netsé. Le 13 mai 2020, après avoir mené une manifestation anti-gouvernementale, ces trois jeunes femmes ont été arrêtées arbitrairement à Harare et amenées à un poste de police. Forcées à monter dans une voiture banalisée, elles ont été conduites à l'extérieur de la ville en étant encagoulées, jetées dans une fosse, rouées de coups, agressées sexuellement et contraintes à manger des excréments humains. Elles ont craint pour leur vie. Elles ont été retrouvées deux jours plus tard à des kilomètres d'Harare, les vêtements déchirés, couvertes de coupures et d'ecchymoses. Elles ont été emmenées à l'hôpital. Alors qu'elles étaient toujours hospitalisées, elles ont été inculpées d'infractions pénales en lien avec la manifestation à laquelle elles avaient participé pour rassemblement avec l'intention de fomenter la violence publique et trouble à l'ordre public. Des surveillants pénitentiaires et des policiers ont été envoyés sur place afin de les empêcher de communiquer avec des journalistes. Après avoir déclaré qu'elles avaient reconnu certains de leurs agresseurs, les trois femmes ont été arrêtées à nouveau le 10 juin 2020, accusées d'avoir menti sur ce qu'elles avaient vécu. Elles ont été maintenues en détention jusqu'au 26 juin 2020, où elles ont été libérées sous caution. Le procès s'est ouvert en janvier et se poursuit actuellement. Jusqu'à présent, personne n'a eu à rendre des comptes pour le terrible traumatisme qu'elles ont subi. Donc nous demandons aux autorités d'abandonner immédiatement et sans condition les charges reconnues contre ces trois jeunes femmes et de mettre fin au harcèlement qu'elles subissent pour avoir exercé pacifiquement le droit de manifester. Et puis, il faut aussi conduire une enquête rapide, impartiale, transparente et exhaustive sur la disparition forcée et les actes de torture et d'agression sexuelle dont elles ont été victimes. Voilà. Le deuxième cas concerne un homme au Chanewaze Chaudhuri. C'est au Bangladesh. Il risque 10 ans de prison pour un post Facebook où il défend l'environnement. Vous savez qu'Amnesty s'occupe de l'ensemble des droits humains et s'occupe bien sûr des manifestations en faveur du climat. Et là, c'est très lié, le problème du Bangladesh, au dérèglement climatique. En effet, la zone côtière où il se trouve a été balayée en mai 2021 par une tempête. Des pluies diluviennes et des vents forts se sont abattus sur le village, des maisons ont été détruites. Préoccupé par les effets sur l'environnement de projets comme celui de la nouvelle centrale électrique, dont il estimait qu'elle contribue à une augmentation des risques de raz-de-marée, Chanewaze a partagé ses craintes sur Facebook. Il a aussi condamné plusieurs événements où 12 personnes auraient été tuées lors d'actions de protestation dans cette centrale. Dans une publication, il a encouragé les jeunes à s'exprimer haut et fort. La jeunesse de Bankai doit résister à l'injustice et soutenir le progrès en prenant courageusement la plume. Le lendemain, l'entreprise qui détient la centrale électrique a engagé des poursuites à l'encontre de Chanewaze, l'accusant d'avoir diffusé de fausses informations. Le 28 mai 2021, il a été arrêté par la police pour sa publication sur Facebook en vertu de la loi bangladaise sur la sécurité numérique dont les dispositions conduisent à une répression flagrante du droit à la liberté d'expression. Il a été détenu 80 jours dans des conditions inhumaines sans être jugé. Il a été libéré sous caution. Mais s'il est déclaré coupable, il encourt 10 ans de prison. Voilà, donc on va interpeller les autorités et envoyer des messages de solidarité aussi à Chanewaze. Donc tout cela, vous pouvez le retrouver sur amnesty.fr. Donc on va demander aussi d'abandonner toutes les charges et d'abroger ou modifier la loi relative à la sécurité numérique. On va maintenant écouter une chanson qui parle justement de dérèglement climatique. C'est de Christophe Maé et Youssou N'Dour, l'ours.
Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bouillant comme l'équateur. Posé sur quelques mètres carrés, j'ai beau hurler, mais y'a personne pour m'aider. Laisse-moi seul, je te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Je suis qu'un torah à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard de mer. Ça devient chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Atlantique.
J'entends des voix des fois venues d'Afrique.
À tout le monde c'est des langues. Africa du clean bolo. Wayne Titan.
De ma peau à la bourse. Je me traîne une drôle d'allure. Je fais de la peine à voir dans ma fourrure. C'est plus le grand froid chez moi, mais plus d'hiver. Et elle s'enlève pas, moi, ma poudre. D'un jour, les seules sources blanches seront les peluches de vos enfants.
J'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix, des voix venues d'Afrique.
À tout le monde c'est des noms. Africa du clean polo. William Titan.
Nous reprenons la présentation des cas. Je vais vous parler maintenant de Vahid Afkari en Iran, qui est torturé et condamné à plus de 30 ans de prison pour avoir manifesté. Vous voyez bien qu'en Iran, ça ne plaisante pas. Donc en fait, c'était trois frères qui, en 2016, 2017 et 2018, ont participé pacifiquement à des manifestations dans leur ville, Shiraz, contre les inégalités et la répression politique. Le 17 septembre 2018, Vahid et Navid ont été arrêtés à leur domicile pour avoir manifesté. Habib a été arrêté trois mois plus tard. Les autorités iraniennes ont détenu les trois frères à l'isolement, les ont torturés et les ont obligés à avouer des infractions qu'ils ont déclarées à maintes reprises ne pas avoir commises. Ces hommes ont été déclarés coupables d'infractions sur la base de considérations politiques du fait de leur participation pacifique aux manifestations. Vahid et Navid ont également été déclarés coupables à la suite d'une accusation sans fondement liée à l'homicide d'un agent des forces de sécurité. Les autorités ont injustement condamné Navid à mort et Habib et Vahid à plusieurs décennies de réclusion et à 74 coups de fouet chacun. Les trois frères ont été placés à l'isolement dans des cellules séparées en septembre 2020. Le 12 septembre 2020, Navid a été exécuté en secret, sans que sa famille ni ses avocats n'en soient informés. Son exécution a soulevé un tollé en Iran et dans le monde entier et a entraîné l'intensification de la campagne en faveur de Vahid et Habib. Ce dernier a été libéré de prison en mars 2022 après avoir passé 550 jours d'isolement. Les autorités maintiennent Vahid à l'isolement depuis septembre 2020, le coupant totalement des autres prisonniers. Il s'agit d'un traitement cruel visant à le punir, de ne pas se plier à la volonté des autorités, lesquelles exigent qu'ils fassent une déclaration publique décriant les personnes qui, en Iran et dans le reste du monde, demandent justice pour sa famille. Aujourd'hui, les limites de la cruauté sont repoussées. Les autorités arrêtent et placent en détention des personnes innocentes, les poursuivent en justice et les condamnent sans preuve, les privent de leur vie ou pire encore, les exécutent. Les manifestations qui sont journalières depuis la mort de la jeune femme, là en Iran, ont déjà fait plus de 300 morts parmi les manifestants. Hein. Donc c'est un pays qui n'hésite pas à tirer sur sa population et les gens veulent un changement radical et continuent à manifester malgré le danger. Donc là, on va agir pour Vahid Afkari par les pétitions, par des lettres et puis par des messages de soutien. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui adore la philosophie, donc on peut faire des références à sa passion dans les messages. Et voilà, donc venez le samedi 10 décembre à la médiathèque pour signer pour lui ou aller sur le site amnesty.fr. Un autre cas, ce sont deux femmes, Irène Rotella et Mariana Sepulveda, au Paraguay, qui sont harcelées et privées de la reconnaissance de leur identité de femmes transgenres. Elles veulent vivre librement et faire ce qu'elles aiment, jouer au volley, danser et aller au théâtre. Cependant, en tant que femmes transgenres, elles sont obligées de lutter contre la discrimination dont elles font l'objet. En plus d'avoir été harcelées et agressées physiquement, elles sont empêchées de dénoncer les problèmes auxquels elles sont confrontées au quotidien. Au Paraguay, entre autres pratiques discriminatoires, les personnes transgenres ne peuvent pas modifier officiellement leur prénom ni obtenir de documents d'identité correspondant à leur identité de genre. Ces pratiques les empêchent d'avoir accès à l'éducation, à l'emploi, au logement ou aux soins de santé au même titre que les autres personnes et les exposent encore davantage à la violence, au harcèlement et à la stigmatisation. Cette inégalité a motivé Irène et Mariana à militer pour que les choses changent, mais au Paraguay, il n'est pas facile pour les personnes transgenres de hausser la voix pour défendre leurs droits. Les autorités ainsi que des groupes conservateurs dans le pays traitent ces personnes et l'ensemble de la communauté LGBTI de manière hostile et tentent de les invisibiliser. C'est la raison pour laquelle leurs manifestations sont souvent interdites. Irène et Mariana se battent depuis des années pour modifier leur prénom officiel et pour la reconnaissance des droits des LGBTI. Si elles pouvaient obtenir des documents correspondant à leur identité, cela signifierait que l'État commence à reconnaître leur existence en tant que femme transgenre. Voilà, donc on demande aux autorités de reconnaître juridiquement le genre des personnes trans, de sorte qu'elles puissent exercer leurs droits fondamentaux. On peut témoigner de leur soutien, et puis envoyer aussi des messages d'amitié et d'espoir pour ces deux femmes. Voilà, alors Mariana adore la musique bachata, notamment Romeo Santos. Donc on va maintenant écouter Romeo Santos, Rosalía, El Pañuelo.
Mi cantar, mi canto es un lamento. Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida. Destrozada, estoy por dentro.
Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Pone en riesgo al corazón, dañando sentimientos.
Un lunes se marchó a las 6:24. Yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres él, pero quiero un beso.
Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama.
Ya mí.
Suelo,
seré la cura, quiero tu cuerpo. por lo mismo, pero nadie ha morido por amor.
Esta noche ven, refúgiate en mis brazos, desquítate con rabia pasional.
No es casual que nos hayamos encontrado.
¿Cómo?
Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama.
Te amigo, baby, si hace que lo olvide, puede que vuelva mañana.
Te aseguro, mami, si en el pañuelo mata la angustia aquí en mi cuerpo.
Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo.
Nous allons donc maintenant parler de Nasser Zefzafi au Maroc, qui a été condamné à 20 ans de prison pour avoir demandé plus de justice sociale. Voilà, en octobre 2016, des manifestations pacifiques ont débuté dans la ville de Nasser, à Al-Hosseima, à la suite de la mort d'un poissonnier qui était écrasé par un camion alors qu'il tentait de récupérer les poissons saisis par les autorités. Des milliers de personnes ont défilé pacifiquement pour exprimer leur tristesse et leur frustration, et réclamer un changement social. C'est ainsi qu'est né le Irak du Rif, mouvement populaire qui revendique plus de droits sociaux et économiques pour cette région. Nasser, qui croyait profondément en la justice et en l'égalité, en est devenu une figure de proue. Dans les mois qui ont suivi, les forces de sécurité marocaines ont arrêté des centaines de manifestantes et manifestants. Le 29 mai 2017, Nasser a été arrêté pour avoir interrompu un prêche dans une mosquée et pour avoir accusé l'imam de se faire le porte-parole des autorités. Durant sa garde à vue, Nasser a subi des tortures et d'autres mauvais traitements de la part de la police. Le 27 juin 2018, Nasser a été condamné à 20 ans de réclusion, simplement pour s'être exprimé ouvertement. Il est maintenu à l'isolement depuis son arrestation. Contraint de vivre dans des conditions déplorables en prison, son état de santé s'est considérablement dégradé. Il souffre de plusieurs problèmes de santé, notamment de troubles respiratoires, de troubles de la vue et de douleurs neurologiques. La direction de la prison le prive de soins médicaux dont il a besoin. Il nous a dit « Nous sommes les enfants de gens pauvres et simples. Nous sommes sortis dans la rue pour dire non à la marginalisation et non à la corruption. » Donc voilà, on va intercéder pour lui, pour leur faire part de nos inquiétudes et demander la libération immédiate et puis des soins et qu'il ne soit plus victime de torture. Vous pouvez aussi, on peut aussi lui envoyer des témoignages de soutien. Il adore le foot alors et on peut faire référence à sa passion dans les lettres ou les cartes postales. Et on peut adresser ces cartes postales à Amnesty International Maroc, 20 à Rabat. Voilà, Amnesty Maroc lui fera passer. Un autre cas, alors celui-là, il est proche de chez nous, puisque ça se passe à Marseille, ça s'est passé à Marseille. C'est un cas dramatique de l'usage abusif de la force. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er décembre 2018, il y a 4 ans, à Marseille, Zineb préparait le dîner et parlait avec sa fille au téléphone dans son appartement situé au 4e étage. Dans la rue, des personnes manifestaient contre les mauvaises conditions de vie à Marseille, après l'effondrement de 2 immeubles d'habitation qui avaient fait 8 morts. Tout le monde s'en souvient. En cours de manifestation, les Gilets jaunes se sont joints à cette manifestation organisée par le collectif du 5 novembre. Des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestantes et manifestants. Voyant que du gaz lacrymogène entrait par sa fenêtre ouverte, Zineb est allée la fermer et a remarqué des policiers en bas de la rue. Elle a été touchée au visage par une grenade lacrymogène MP7. Zineb a dit à sa fille au téléphone « Le policier m'a visé, je l'ai vu. » Elle a été emmenée à l'hôpital, elle présentait de graves blessures au visage et saignait abondamment. Ses fractures de la mâchoire et l'effondrement de son palais la faisaient suffoquer. Elle devait être opérée d'urgence, mais l'intervention n'a pas pu être menée à bien car Zineb a fait un arrêt cardiaque sous anesthésie. Elle en a fait plusieurs autres ensuite, avant de décéder le lendemain. Zineb a été victime de l'utilisation irrégulière et dangereuse d'une grenade lacrymogène. Près de 4 ans plus tard, l'enquête sur sa mort est encore en cours et personne n'a été inculpé ni suspendu pour cet homicide. Sa famille attend toujours que justice soit rendue. En mars 2019, les proches portent plainte contre le policier qui a tiré la grenade et a entraîné la mort de leur mère. À une heure de grande écoute à la radio, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur de l'époque, défend les policiers. Je ne voudrais pas que l'on pense que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane. Parce que ce n'est pas vrai, elle est morte du choc de l'opération. Pour la famille, c'est un coup de massue. L'État nie la responsabilité des forces de l'ordre dans la mort de leur mère. Des rapports continuent de mettre les policiers hors de cause. Un rapport d'expertise balistique, le 20 mai 2020, identifie le policier, mais indique que le tir a été effectué selon les règles d'usage. Les conclusions de l'expertise officielle sont contredites formellement par une enquête de deux médias d'investigation, Disclose et l'agence Forensic Architecture, publiée en novembre 2020. En reconstituant les événements, il prouve que le tir de la grenade lacrymogène n'était ni régulier ni légal. Dernier rebondissement en date, en octobre 2021, l'AFP révèle que l'IGPN, la police des polices, préconisait le renvoi du CRS mis en cause dans l'affaire Redouane devant le conseil de discipline. Avis dont n'a pas tenu compte le directeur général de la police nationale. Nouvel obstacle pour l'accès à la justice, l'impunité de fait prévaut. 4 ans après la mort de Mama Zina, personne n'a été inculpé ni même suspendu pour cet homicide. Une partie de sa famille mène un combat pour la vérité et pour la justice. Tant que ses proches ne sauront pas qui a tué leur mère, leur amie, leur voisine et pourquoi, ils ne pourront pas faire leur deuil. Voilà, nous avons donc ouvert notre campagne des 10 jours pour signer à Marseille en illuminant un bâtiment aux couleurs de... avec la photo de Zidane. Hein, il y a eu un article sur la Provence du 3 décembre. La mort de Zineb Redouane à Marseille, une honte pour l'État français. Voilà, il ne faut pas que cette affaire tombe dans l'oubli. Dès l'ouverture de l'enquête, des personnalités très haut placées ont déclaré publiquement que les forces de l'ordre n'étaient pas responsables. Et la famille ne peut pas faire le deuil tant que les responsables ne sont pas poursuivis. Voilà, on va maintenant écouter un interview d'Amnesty International qui dénonce les entraves à la liberté de manifester en France.
Ce qu'on a constaté, c'est qu'on peut aujourd'hui être convoqué au commissariat, arrêté, voire même condamné simplement pour avoir affiché un slogan, pour avoir scandé un slogan manifestation. Il y a des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles peignaient des banderoles. Il y a des personnes qui ont été arrêtées en amont d'une manifestation où elles se rendaient simplement parce qu'elles avaient du matériel de protection dans leur sac à dos, parce qu'elles souhaitaient se protéger des gaz lacrymogènes. C'est pas anodin de rester enfermé de longues heures sans savoir ce qui va nous arriver. C'est pas anodin d'attendre un procès. On a déjà un sentiment d'injustice lié au fait qu'on a été arrêté alors qu'on n'a rien fait. Donc il y a une perte de confiance aussi dans les autorités judiciaires. Donc c'est une source de stress, d'angoisse. On se demande quelles vont être les conséquences. Il y a des coûts en termes de frais d'avocat. Donc tout ça a un effet dissuasif. On peut renoncer à aller manifester pour cette raison. Il y a des témoins qui nous ont parlé de cette conséquence sur leur engagement. On a tous cette expérience aussi de manière un peu plus légère de pas vouloir aller manifester. Parce qu'on risque d'être bloqué dans une nasse, parce qu'on risque d'avoir un contrôle d'identité qui va se prolonger 4 heures même si on a notre pièce d'identité. Donc il y a toute une série d'entraves à la circulation, de risques d'arrestation qui peuvent décourager des personnes qui souhaitaient descendre dans la rue, exprimer des revendications. On n'est pas opposé au fait que les manifestants qui ont commis des dégradations, des violences, fassent l'objet de poursuites, tant qu'ils ont droit à un procès équitable. En revanche, il faut protéger les manifestants qui viennent exprimer des revendications de manière pacifique. Et en France, on constate que des milliers de personnes qui s'étaient rendues en manifestation ont fini en garde à vue sans avoir commis aucune violence. En fait, le droit de manifester, c'est un corollaire de la liberté d'expression, c'est le droit à la liberté de réunion pacifique, c'est consacré dans les plus grands traités de protection des droits humains, la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte international pour les droits civils et politiques. Donc la France est engagée à respecter le droit de manifester. Elle doit à la fois le protéger et en permettre son exercice de manière active. Donc tout faire pour que les gens puissent exercer cette liberté. Il faut que les gens puissent descendre dans la rue et exprimer des opinions politiques sans craindre les violences policières, mais également sans craindre les arrestations, les poursuites et des suites juridiques alors qu'ils n'ont commis aucune violence. Il y a des lois qui sont simplement à abroger parce qu'elles sont contraires au droit international. Par exemple, il faut arrêter de criminaliser le fait d'organiser une manifestation non déclarée. En droit international, une manifestation n'a pas à être déclarée pour être légale. Ensuite, il y a des lois qui doivent être précisées. La loi sur le délit de groupement vu la préparation de violence, il faut qu'il y ait des critères beaucoup plus précis pour que ça ne permette pas d'arrêter simplement des personnes qui se rendent en manifestation avec du matériel de protection, avec un masque de Benalla ou simplement des personnes qui gonflent des ballons jaunes sur les Champs-Élysées un 14 juillet. Tout ça, c'est des cas qu'on a documentés dans notre rapport. Et ensuite, il y a des changements de pratique. Les forces de l'ordre ne doivent plus placer des personnes en garde à vue quand il y a peu d'éléments ou pas d'éléments pour les garder en détention. Il faut aussi changer les pratiques des contrôles d'identité. Beaucoup trop de personnes sont retenues des heures pour des contrôles d'identité alors qu'elles sont en mesure de montrer leurs papiers. Dans ces cas-là, le contrôle d'identité s'arrête immédiatement. Il n'y a aucune raison de garder les personnes et de les empêcher de circuler ou de les empêcher d'aller manifester.
Voilà. Nous allons maintenant au Cameroun pour vous parler de Dorgelès Nguessan. C'est une coiffeuse de métier de 37 ans qui commençait depuis 2 ans à développer son activité quand sa vie a basculé. Préoccupée par la situation du pays, en particulier au niveau économique, elle a décidé pour la première fois de sa vie de participer à une manifestation organisée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le 22 septembre 2020 à Douala. Alors que la manifestation se déroulait de façon pacifique, les forces de sécurité ont utilisé des balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser la foule. Les forces de l'ordre ont arrêté plus de 500 personnes, dont Dorgelès. Elle a été emmenée à un poste de police où elle a été placée dans une cellule avec 22 autres personnes, dans des conditions inhumaines, et où un policier a essayé de l'agresser sexuellement. Le 29 septembre 2020, Dorgelès a été transférée à la prison centrale de Douala, où elle se trouve toujours, inculpée pour insurrection, réunion, manifestation publique et attroupement. Elle a été jugée par un tribunal militaire et condamnée à 5 ans d'emprisonnement le 7 décembre 2021. Avant d'être arrêtée, Dorgelès Nguessan était celle qui subvenait aux besoins de sa famille. Célibataire, elle s'occupait de sa mère âgée et de son fils de 18 ans qui est atteint d'anémie falciforme. Sans Dorgelès, sa famille n'arrive que très difficilement à payer ses médicaments. Elle nous a dit « Je voulais un changement au Cameroun et j'ai pensé que ma voix pouvait contribuer à le générer. Je souffre beaucoup en prison et ma famille souffre énormément. J'espère que de nombreuses personnes se mobiliseront pour que je retrouve ma liberté. Je suis avec vous de tout mon cœur. Merci beaucoup. » Et voilà, on va donc se mobiliser en masse dans le monde entier pour elle et pour les autres. Donc en signant les pétitions, en envoyant aux autorités des messages demandant de libérer Dorgelès immédiatement et sans condition, car elle est emprisonnée uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression et des réunions. Et puis on peut lui envoyer des témoignages de soutien. Voilà, donc un autre cas. Nous allons maintenant à Cuba, où un artiste, Luis Manuel Otero Alcantara, est emprisonné pour avoir défendu la liberté d'expression. Alors cet article, je vais vous en reparler régulièrement, car le groupe de Dignes d'Amnesty International a reçu son dossier. Et donc nous allons, avec d'autres groupes en France et dans le monde, nous occuper pour faire connaître son cas et arriver à le faire libérer sans condition et changer aussi les lois. Alors donc, Luis Manuel Otero Alcantara est un artiste autodidacte afro-cubain. Il aime peindre, danser, faire des performances artistiques. On dit que c'est un performeur. Sa maison à San Isidro est l'un des quartiers les plus pauvres de La Havane, est un refuge, une maison ouverte où il est possible de rencontrer des personnes et de créer des liens grâce à de nombreux événements. Indigné par le décret 349, un texte de loi visant à réduire au silence les artistes exprimant des critiques sur la situation du pays, Luis Manuel est devenu l'une des voix les plus actives du mouvement San Isidro, un collectif d'artistes, de journalistes, de militantes et militants de tout horizon qui défend le droit à la liberté d'expression. En raison de leur défense des droits humains, ses membres sont placés sous surveillance et victimes d'actes d'intimidation et de détention. En fait, le décret 349 indique que pour chaque œuvre, l'artiste doit d'abord demander l'autorisation avant de pouvoir la faire. Le 2 mai 2021, des agents de sécurité de l'État sont allés chercher Luis Manuel à son domicile, où il observait une grève de la faim pour protester contre la saisie de ses œuvres par les autorités. Ils l'ont emmené dans un hôpital et l'ont coupé du monde extérieur. Après sa libération un mois plus tard, les forces de sécurité ont continué à le surveiller. Le 11 juillet 2021, Luis Manuel a diffusé en ligne une vidéo dans laquelle il indiquait qu'il allait participer à l'une des plus grandes manifestations que Cuba ait connues depuis des décennies. Il a été arrêté avant le début de la manifestation et emmené à la prison de sécurité maximale de Ganagé, où il se trouve toujours. En juin 2022, Luis Manuel a été condamné à 5 ans de prison à l'issue d'un procès à huis clos. Il est régulièrement privé de son droit de visite en prison, où son état de santé se dégrade sans bénéficier de soins médicaux adaptés. L'œuvre d'un artiste peut faire transparaître le sentiment qui se dégage de la réalité d'un pays. C'est une responsabilité qu'un artiste doit assumer. Un grand merci pour votre soutien, nous a-t-il dit. Donc on va envoyer des messages au président de Cuba. On va témoigner de notre soutien. Et puis, donc, vous pourrez signer des pétitions demandant la libération immédiate et sans condition de cet artiste détenu uniquement pour avoir exercé de manière pacifique son droit à la liberté d'expression et de réunion. Et de veiller aussi à ce que Luis Manuel ne soit pas soumis à de mauvais traitements, qu'il ait pleinement accès à des soins médicaux et qu'il ait des contacts réguliers avec sa famille et ses avocats. Voilà, alors c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Et du coup, on va passer une musique, une de ses préférées. Ça s'appelle « Romance de la Nina Mala » de Pedro Luis Ferrer, chanteur cubain.
Para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada y que 100 veces al día todo el batey la regaña. Y a la hija de un colono le dio ayer una pedrada y que a la del mayoral le puso roja la cara. ¿Quién sabe con qué razones por nosotros ignoradas? Que si la viten de limpio al poco rato su bata está rota o está sucia, que anda siempre despeinada, que no estudia la lección y nunca sabe la tabla. El sábado y el domingo se pierden la guardarraya persiguiendo tobeguines y recogiendo guayaba. Y yo pregunto, vecino, vecino de mala entreña, ¿quién puede decir que sea? Por eso mi niña mala, si hubiera visto lo íntimo de su vida y de su alma, como lo ha visto el maestro, qué diferente pensaras. Verdad que siempre está ausente, pero si viene no falta, entre sus manitas breves un ramo de rosas blancas para poner al martillo que tengo en mitad del aula. Con quien no tenga merienda parte a gusto su naranja. Si cantamos al salir se oye su voz la más alta, su voz que es limpia y alegre como arpegios de guitarra. Cuando explico aritmética, me resulta tan abstracta que de flores y banderas me llena toda la página. Y prefieren el recreo cuando juegan a las casas jugar con Luisa, la única niña negra de mi aula. A veces le llama Luisa, a veces le dice hermana. Y cuentan los que lo saben que en aquella tarde amarga en que no vino el maestro era la que más lloraba. Cuando se premia el cariño y lo rebelde del alma, cuando se entienda la risa y se le cante la gracia, cuando la justicia rompa entre mi pueblo su marcha y el tierno botón de un niño sea una flor en la esperanza. Habrá que poner al pecho de mi niña una medalla, aunque el bandey malicioso me dé tan mala fama. Y tú, mi pobre vecino, no entiendas una palabra.
Voilà, donc les deux derniers cas concernent la Chine et la Russie, deux États très autoritaires qui nous inquiètent beaucoup. Voilà, alors en fait c'est à Hong Kong, Chou Hang-tung qui est emprisonné pour avoir commémoré les victimes de la répression de la place Tiananmen. Chou Hang-tung est une avocate spécialisée dans les droits humains et militante pour les droits des travailleuses et travailleurs. Elle était la vice-présidente de la Hong Kong Alliance. Cette organisation, aujourd'hui dissoute, est à l'initiative de la plus grande veillée annuelle à la bougie, organisée pour rendre hommage aux victimes de la répression de la place Tiananmen. En 1989, près de cette place à Pékin, des centaines de personnes, voire des milliers, ont été tuées lorsque l'armée a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques, souvent de très jeunes étudiants, qui demandaient des réformes sociales et économiques, simplement. En 2020-2021, les autorités de Hong Kong ont interdit la veillée en prétextant des raisons de santé publique liées à la pandémie. Le 4 juin 2021, sur les réseaux sociaux, Chou a encouragé les personnes à commémorer la répression en allumant des bougies. Elle a été arrêtée le jour même pour avoir fait la promotion ou la publicité d'une réunion non autorisée. Chou purge actuellement une peine de 22 mois de prison pour rassemblement non autorisé. Elle risque également une peine de prison supplémentaire allant jusqu'à 10 ans pour incitation à la subversion, en vertu de la récente loi relative à la sécurité nationale, pour avoir uniquement exercé son droit à la liberté d'expression. Le gouvernement chinois souhaite que le peuple oublie cette tragédie, mais Chou s'est donné pour mission de garder dans les mémoires les victimes de la répression de la place Tiananmen. L'histoire ne peut être effacée et les personnes détenues pour avoir commémoré pacifiquement les événements doivent être libérées. Elle nous a dit « Les autorités ne seront pas en mesure d'interdire les bougies dans tous les recoins de Hong Kong. Pour le moment, nous devons toutes et tous veiller sur ces flammes dans cette froideur amère. » Voilà, donc on va demander aux autorités de Hong Kong d'abandonner toutes les charges retenues contre elle et de la libérer immédiatement, car elle était inculpée uniquement pour avoir exercé pacifiquement ses droits. Et puis on demandera de réviser et modifier l'ensemble des lois et des règlements qui empêchent l'exercice des droits humains, en particulier des libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association, d'abroger toutes les mesures qui en découlent et de veiller à ce que toutes les dispositions juridiques visant à protéger la sécurité nationale ou à lutter contre le terrorisme soient définies de manière claire et précise et conforme au droit international relatif aux droits humains. On peut lui apporter son soutien. Pour des raisons de sécurité, il faut éviter de citer Amnesty International et de donner son adresse personnelle ou de faire référence au régime politique du pays. Voilà, donc on agira pour elle. Et puis enfin, le dernier des 10 cas concerne Alexandra Stoshilenko en Russie. Elle est emprisonnée pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Alexandra a une vie remplie d'art et de musique. En des temps plus sereins, cette femme de 32 ans, qui aime jouer du piano, de la guitare, de la mandoline et de la flûte, avait l'habitude d'animer des sessions musicales improvisées, lorsque des personnes voulaient jouer ensemble. Troublée par l'invasion russe en Ukraine, elle a décidé de ne pas rester silencieuse. Le 31 mars 2022, dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, elle a remplacé les prix des produits par de petites étiquettes en papier, révélant des informations sur l'invasion russe en Ukraine. Information qui, bien sûr, n'était pas diffusée dans les médias de Russie. Le 11 avril 2022, tôt dans la matinée, elle a été arrêtée par la police avant d'être inculpée de diffusion publique délibérée de fausses informations sur l'utilisation des forces armées russes. Ce nouvel article du code pénal a été introduit à la hâte par le gouvernement russe en mars 2022 pour tenter d'empêcher les Russes de critiquer l'invasion de l'Ukraine. Des dizaines de personnes font l'objet de poursuites pénales en vertu de cet article. Alexandra est détenue depuis lors dans des conditions déplorables. Atteinte d'une intolérance au gluten, elle est la plupart du temps dans l'impossibilité de se nourrir, car le centre de détention ne lui fournit pas les aliments qui lui conviennent. De plus, elle a été harcelée par le personnel du centre de détention et par ses co-détenus. Si elle est reconnue coupable, elle encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Donc nous allons demander aux autorités russes d'abandonner toutes les charges retenues contre Alexandra, de la libérer immédiatement, d'abroger les articles 207.3 et 283 du Code pénal et l'article 23.3 du Code administratif parce qu'ils sont contraires au droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique. On peut la soutenir, bien sûr, en lui envoyant des messages accompagnés de dessins, des vidéos, vous interpréter une chanson, voire organiser des concerts ou des séances musicales improvisées en son honneur, et nous envoyer des photographies et des vidéos de ces événements. Nous lui ferons parvenir. Voilà, elle adore la musique, et un de ses groupes préférés, c'est les Beatles. Alors, j'ai choisi une chanson des Beatles pour elle.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Très belle chanson qui rappelle des souvenirs. Je vais maintenant vous parler donc des actions du groupe Dinois. Nous avons fait dernièrement un ciné-débat avec RESF et l'association soutien aux jeunes mineurs isolés étrangers, autour du film Les Engagés, film qui se situe à Briançon. Et nous avons notamment parlé de la situation des mineurs non accompagnés, parce que régulièrement, à Digne, des mineurs sont renvoyés dans les rues de Marseille, sans logement, sans protection, au mépris de la Convention des droits de l'enfant. La salle était pleine, on a rempli la salle, ce qui montre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par la situation des enfants en danger. Et nous étions heureux de cette présence et du débat qui s'en est suivi. Alors nous installons aujourd'hui deux expositions que vous pourrez voir à partir de demain à la médiathèque dans la salle d'exposition. Une sur Amnesty International et une autre de l'agence Magnum. Vous savez, cette agence très connue, très célèbre de photographes. Alors cette exposition s'appelle Juste Humain. Amnesty International et l'agence Magnum Photo s'associent pour revenir sur 60 ans de mobilisation pour les droits humains à travers une sélection d'images qui témoignent de la pluralité des combats portés par l'organisation. Parce que le travail photographique tire sa force des prises de conscience qu'il provoque. Donc vous pourrez aller admirer ces photos qui sont visibles tout public, hein, même si elles ont des sujets graves. Elles ne sont pas choquantes au niveau photographique. Mais elle parle des combats d'Amnesty. Hein. Donc vous verrez, la première photo, c'est le procès d'Adolf Eichmann. Donc c'est un des premiers procès concernant des crimes parmi les plus graves, hein, de lutte contre l'impunité. Et c'est une lutte inhérente à l'histoire d'Amnesty International. Vous avez une photo de Martin Luther King, hein, lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Vous avez une photo d'une manifestation au Guatemala. Vous avez une photo d'un sous-sol, où juste les portes d'entrée d'un sous-sol où des tortures avaient lieu en Argentine lors des années terribles, où il y avait énormément de disparitions forcées. Hein. Vous avez une photo de Vlaka Havel et sa révolution de velours en Tchécoslovaquie. Une photo, bien sûr, de la chute du mur de Berlin en 1989. Et puis toujours dans cette même année, très grande année, dans les positifs et négatifs, hein, c'est Le courage d'un homme, place Tiananmen, la célèbre photo de cet homme qui arrête les chars sur la place Tiananmen. C'est une photo très connue qui ne reflète pas vraiment en fait, la réalité. C'est vrai que cet homme a fait arrêter le char, mais beaucoup de chars ne se sont pas arrêtés et ont écrasé des jeunes étudiants. Une photo de Mandela, bien sûr, qui a mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Vous avez aussi une photo de la chambre de torture du régime de Pinochet. Hein. Pinochet, ce dictateur sanglant qui a évité de justesse un procès, hein, soi-disant pour son état de santé. Hein. Donc il n'a pas eu... Mais il a failli être incarcéré... pour rendre justice à tous ceux qui ont souffert. Vous avez une photo d'élections libres en Afghanistan. Il y a une période où les femmes ont pu voter. Ce n'est plus possible maintenant, hein, puisque les talibans sont revenus. Une photo de Guantanamo, cette prison de non-droit mise en place par les États-Unis. Une manifestation des printemps arabes, où les gens ont levé leurs chaussures devant le siège de la télévision d'État. C'était une manifestation anti-Moubarak. Vous avez une photo sur les prisons en République démocratique du Congo. Vous avez une photo sur la liberté d'expression et la marche contre le terrorisme et l'antisémitisme après l'assaut de Charlie Hebdo. Vous avez une photo sur les persécutions des Rohingyas au Myanmar. Une photo de manifestation, ce qu'on appelait les manifestations des parapluies, hein, contre les lois liberticides à Hong Kong. Une photo sur le droit à l'avortement, une manifestation contre une loi anti-avortement en Pologne. Et puis la photo de Greta Thunberg pour une justice climatique. Nous avons soutenu cette jeune femme dans son combat pour que les États prennent conscience et surtout fassent des actions pour la justice climatique. Voilà, et enfin, une photo sur les manifestations en réponse au meurtre de George Floyd par la police. et puis une photo sur une manifestation pro-Navalny à la gare de Moscou en Russie. Et donc c'est pour le droit à la liberté d'opinion et de réunion en Russie. Voilà 20 photos qui illustrent un peu les combats depuis plus de 60 ans d'Amnesty International. Donc venez voir ces expos à la médiathèque pendant toute la semaine et puis venez nous rencontrer le samedi 10 décembre. Nous allons tenir un grand stand dans le hall de la médiathèque avec la signature des pétitions, l'envoi de cartes de soutien et puis nous vendons aussi des calendriers et des albums pour enfants qui peuvent d'ailleurs faire des cadeaux de Noël intelligents à nos enfants puisque nous coéditons des albums qui ont pour thème bien sûr la protection des droits humains. Voilà, on termine cette émission avec le chanteur HK, Toi et moi, ma liberté.
Si le cycle court commence, le temps peut bien s'arrêter, ouvre une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté.
Ce soir la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi. Derrière les murs et les façades et les discours de circonstance, quelques imprudences évadent, s'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent comme dans un grand bal populaire. Sens-tu nos peines qui s'éloignent? Demain sera plus beau qu'hier. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. Amis, les arbres sont en fleurs et nous revoilà désormais comme les frères, comme les sœurs. Et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tanguons sur le toit du monde. Nos âmes qui voguent au grand air sont sur la même longueur d'onde. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté.